Hélène Sixou, Cécile Weisbrot, permettez-moi de vous remercier tout d'abord d'avoir accepté cet entretien matinal. Madame Sixou, Madame Weisbrot, vous venez de publier aux éditions Bourgois une relation épistolaire qui s'est tissée autour de l'Allemagne, une Allemagne extérieure, géographique et politique, et une Allemagne intérieure, intime et je pense en partie fantasmée. Pourriez-vous me dire toutes les deux quelle place tient l'Allemagne dans votre histoire familiale?
Alors, qui commence?
C'est une grande question.
Dans mon histoire familiale, une place primordiale, puisque ma famille maternelle vient d'Allemagne. Ma mère et ma grand-mère appartiennent à une famille qui... une famille juive de, d'Osnabrück, dans le Hanovre. Cette histoire de... très ancienne, parce que c'était ce genre de juifs allemands extrêmement assimilés et qui croyaient être allemands, mm-hmm. ou qui ont cru être allemands pendant quelque temps, a des racines très très anciennes. Je ne sais pas à combien de siècles ça remontait. Et naturellement, l'arrivée de Hitler a changé le cours des choses. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je suis héritière de cette histoire qui est un symptôme. Hein, alors, je dirais même pas de l'Allemagne, parce que je me refuse absolument à faire un sort particulier à l'Allemagne, mm-hmm. mais de ce que l'histoire réserve à tous les peuples. Voilà. D'accord. En ce moment, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Et il n'y a pas un plan d'élimination totale des Syriens par les Syriens. Mais voilà, mm-hmm. c'est fondamental pour moi.
Mm-hmm. Et vous, Madame Weisbrot?
Moi, j'ai aucune origine familiale allemande. Mm-hmm. Ma famille vient de Pologne, mm-hmm. mais bon, j'ai eu l'irruption de... Enfin, l'irruption, l'histoire est toujours là, mais disons, une irruption particulièrement brutale de l'histoire à travers l'Allemagne dans la vie des générations précédentes, qui m'a été transmise, qui m'a marquée aussi. Et puis, mais bon, c'est anecdotique, mais le nom de deux jeunes filles de ma mère est Sas, S-A-S, et en fait, en polonais, ça veut dire originaire de Saxe, et en hongrois aussi, c'est la même chose, et par extension, d'Allemagne. Donc, je ne sais pas, peut-être que quelque part, il y a de l'Allemagne aussi.
C'est son mystère et son secret. C'est qu'elle s'appelle Weisbrot et pour le moment, elle ne sait pas encore de quelle farine elle est faite.
Voilà, c'est ça. Mais j'aime beaucoup le pain.
Je te signale que moi, je m'appelle Farine.
Ah, oui.
Façon de parler, hein, parce que Sixou, on ne sait pas très bien quelle est l'origine de ce mot, mais en kabyle, ça veut dire farine. Semoule, ça veut dire semoule.
D'accord.
C'est un cadeau
pour se rencontrer. Oui, c'est un coup du destin. Je voulais savoir si vous vous souveniez de votre première rencontre ou de vos premières rencontres avec la langue allemande.
Ah ben moi, c'est quand j'étais au berceau. Donc, pour moi, c'est une langue maternelle. Mm-hmm. C'est même la langue maternelle par excellence, parce que j'en ai d'autres. Hein. J'ai plusieurs langues maternelles. Et ça, je crois qu'il est essentiel de le dire. Mais parmi les langues maternelles, il y en a une qui est maternelle, c'est-à-dire aussi marquée sexuellement, et c'est la langue de ma mère, de ma grand-mère, de toute la lignée féminine de ma généalogie. Donc, voilà.
Elle vous en parlait tout de suite en allemand et...
Ma grand-mère, ma mère parlait français bien, avec un accent que je n'ai entendu, je dois dire, que quand j'avais déjà 40 ans, je crois. Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais ta mère a un accent ». J'étais très vexée parce que j'étais convaincue qu'elle n'en avait pas. Et pour les autres, ça s'entendait. Mais quand ma grand-mère est arrivée en provenance d'Osnabrück, en fin 38, elle ne parlait pas français. Elle connaissait quelques mots de français. Donc l'allemand est entré dans la maison. À ce moment-là, j'avais un an. Et donc, j'entendais l'allemand autour de moi. Mais justement, mon premier rapport avec l'allemand, c'était un allemand totalement oral. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Que j'ai appris l'allemand à l'oreille, sans l'écrire. Voilà. Et je n'ai commencé à m'approcher d'un allemand lettré que quand j'ai fait de l'allemand au lycée, j'avais déjà 12-13 ans.
On a vu une expérience inversée par rapport à Canetti, par exemple.
C'était une révolution, et une révolution épouvantable. Parce que j'étais douée d'un allemand phonétique, et d'une certaine manière parfait phonétiquement, ben ça n'avait aucun rapport avec l'allemand écrit. Et au fond, j'étais comme Gaspard Rosa quand j'ai aperçu l'allemand.
Très bien. Et vous, Madame Weisbrot, je crois que c'était une langue que vous avez apprise au lycée.
Voilà, en deuxième langue, et avec une chose un peu bizarre. Moi, j'ai beaucoup entendu le yiddish dans mon enfance. Mon père le parlait, ma grand-mère maternelle aussi. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai appris l'allemand pour comprendre le yiddish. Et effectivement, je comprends le yiddish à travers l'allemand. Et il y a une espèce de confusion qui, je me souviens vaguement, on entendait à la radio une chanson qui s'appelle, qui à l'origine était en yiddish, By Me Un Bis Du Schein, et qui est devenue By Me Un Bis Du Schön, sous le nazisme. Et pour moi, c'était du yiddish, alors que ce qu'on entendait à la fin des années 50 à la radio, c'était de l'allemand. Donc il y a une espèce de confusion comme ça, au départ, entre les deux langues, qui a un peu complexifié mon rapport à l'allemand, qui est assez affectif, en fait.
D'accord. Pour rester un petit peu sur cette idée des langues, je voulais... parler d'Albert Schweitzer, qui dans son œuvre « Aus meinem Leben und Denken » pose la question du bilinguisme. Et il affirme qu'il n'existe pas, selon lui, de bilinguisme pur. Il y a toujours une langue dominante, selon lui, une seule dans laquelle, par exemple, il dit on peut réciter la vaisselle ou les outils du menuisier, une seule dans laquelle on peut rêver. Et je voulais savoir si chez vous aviez ce sentiment-là aussi d'une langue dominante et si un peu de ce compartimentage entre les langues et les domaines, justement.
Ça, je pense que c'est inexact ce qu'il dit. Personnellement, j'ai. Mes langues se combinent, se succèdent. Et naturellement, je parle mieux le français que l'allemand pour des raisons de pratique. Mais je connais des cas de gens qui sont totalement, réellement bilingues, plurilingues. Donc ça, je pense que c'est une idée.
D'accord.
Qui pourrait se soutenir, mais ça n'est pas du tout généralisable. Ça, on ne peut pas en faire une loi. Je pense que l'expérience que l'on fait, et vous devez la faire, puisque vous êtes bilingue, et très évidemment, ou plus, c'est cette chose merveilleuse qui, justement, fait qu'on commence à adorer les langues. Et que quand on commence à... Il faut un milieu, hein, mais quand on parle, quand je parlais avec ma mère ou ma grand-mère, il m'arrivait comme ça d'emprunter ou de prendre des mots allemands qui rentraient tout naturellement, bien sûr, dans le flux de la langue française, parce que ces mots-là désignaient des affects, ça c'est très important justement, qui étaient des affects qui, en français, n'avait pas de nom, ou pas ce nom-là. Et on sait très bien, justement, que dans chaque langue, c'est une merveille, il y a des réservoirs de sens ou des nuances dont la langue voisine ne dispose pas. Et c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on a ça produit un affect général de besoin, de solidarité, d'hospitalité des langues les unes par rapport aux autres.
Et vous, Madame Weisbrot, pour la langue allemande, est-ce que vous l'utilisez plus, par exemple, pour certaines choses, Est-ce que vous pouvez rêver en allemand, par exemple?
Ça m'arrive quelquefois, mais c'est, pour moi, ça dépend du lieu. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai une vie partagée plus ou moins inégalement entre Paris et Berlin. Et quand je suis un certain temps à Berlin, je peux rêver en allemand. J'ai eu une expérience, mais ça n'est arrivé qu'une fois, mais assez troublante. Il y a un an et demi où j'étais invitée à donner un séminaire à l'université à Berlin. Et j'avais un rendez-vous avant le séminaire où je parlais allemand. Le séminaire était en français. Et j'ai commencé le séminaire et au bout d'un quart d'heure, je me suis rendu compte que je parlais allemand.
Ben, ça arrive.
Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais.
On a pris la conscience de la langue dans laquelle on parle. Ouais. Mm-hmm. Je reviens encore à Schweitzer, qui distingue la langue française et la langue allemande en recourant à deux métaphores. Il dit que la langue française l'emporte sur les chemins soignés d'un beau parc et que l'allemand l'emporte plutôt sur les chemins d'une forêt magnifique. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez deux métaphores comme ça.
Je trouve que ce sont des clichés. c'est charmant. Il faudrait interroger le fait qu'il se réfère justement à des paysages ou à de... Mais
C'est très daté.
Non, c'est pas daté. Je pense que c'est sa structure à lui. Hein. Mm-hmm. C'est sa structure poétique, enfin. À lui, je crois. Mais non, de toute façon, écoutez, dès qu'on fait des langues sérieusement, c'est-à-dire dès qu'on fait de la littérature, mm-hmm. dès qu'on est dans le texte, on sait que les langues ont des ressources différentes. Que le français a un lexique tout petit, très polysémique, que si vous prenez à côté de ça un dictionnaire d'allemand ou un dictionnaire d'anglais, est trois fois plus épais, qui fait que, naturellement, quand on écrit en français, on a une puissance comme ça de projection énorme, parce que chaque mot vaut pour cinq mots dans l'autre langue. Bon, et de même, on a les ressources diverses des constructions autres. C'est-à-dire que le français n'est plus comme le latin qui avait une économie particulière, grammaticalement, syntaxiquement, etc. Mais ça, c'est un trésor. Mais ramener ça à celui-là est bien peigné et celui-là est échevelé, non.
Très bien. Vous maîtrisez toutes deux plusieurs langues et je voulais savoir quelle influence ce plurilinguisme, ce va-et-vient entre plusieurs langues a eu sur la structure de votre pensée et sur votre style. Donc c'est une question assez difficile, mais je pensais sur la forme de votre écriture, votre style, et puis aussi sur le contenu.
Je ne sais pas, tout ce que je peux dire, c'est que... Mais je pense que c'est quelque chose qui est d'emblée perceptible dans ton écriture.
Dans ce que j'écris, moi, je crois, oui. Moi, je n'ai pas une langue classique, j'ai une langue qui s'étrange tout le temps et qui est hors les lois depuis toujours parce que, justement, j'ai été constituée par une forme de plurilinguisme. J'ajoute que je ne maîtrise pas les langues qui me traversent. C'est elles qui me conduisent, c'est elles qui me soufflent des choses.
C'est pas un mot très sympathique, maîtriser.
Oui, enfin, ça se dit quand on est à l'intérieur d'un système d'éducation, mais on ne maîtrise pas une langue. Elle nous emporte, elle nous transporte. Mm-hmm. Et d'ailleurs, écrire, c'est se laisser transporter par la langue. Par les langues, la langue des langues. Moi, j'écris de plus en plus et je dois dire... De ce point de vue-là, j'éprouve un sentiment très, très plaisant, de manière plurilingue. Pas à la manière joycienne, moi je suis joycienne de formation au niveau d'une certaine recherche littéraire, c'est-à-dire pas en inventant une sorte de volapük qui est un mélange de 18 langues, ce que fait Joyce, mais en écrivant avec plus d'une langue, selon les besoins de... D'une narration, d'un personnage, et en me disant, chose qui pour moi est quand même assez récente, que nous sommes arrivés, nous, mondialement, à une époque où la pratique de plus d'une langue, comme langue, est déjà acceptée et doit être acceptée généralement. Je sais que ça gêne certains de mes lecteurs. J'ai des amis qui me disent au téléphone, il y a trop d'allemand dans ton texte. Et je me dis, bah, tant pis. Tant pis, ce sont des gens qui ont internet.
Il y a la sonorité, même si à la limite, si on ne comprend pas le mot.
Bien sûr.
Moi, je peux juste dire que depuis cette expérience de partage comme ça entre deux villes et un peu deux langues, j'ai une conscience plus aiguisée du français. Mm-hmm. Et par exemple, je suis toujours étonnée qu'il y ait des métaphores qui puissent se traduire littéralement, se transporter d'une langue à l'autre. Et par exemple, il m'a fallu passer par l'apprentissage de l'expression allemande Ich halte dich auf den Laufenden pour me dire, mais en français, c'est exactement pareil, c'est la même structure, je te tiens au courant. Mm-hmm. Et je n'ai jamais pris conscience du participe présent, de courant. Mm. Donc c'est un enrichissement extraordinaire.
Mm-hmm. Oui, j'avais ressenti ça justement dans le jeu que vous faites avec la langue. Enfin, en vous lisant, j'ai l'impression d'une phrase qui sautille à l'autre et d'un jeu. Enfin, je percevais cette... par exemple, quand vous dites « vice-versa », des choses, des jeux de langues comme ça, ça me faisait beaucoup penser à ce mélange, comme vous dites, des langues avec lesquelles on joue quand on est enfant.
Ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est une expérience justement enfantine, c'est que moi j'étais très sensible enfant à la capacité ludique de l'allemand, qui est beaucoup plus, si je peux dire, populaire et répandue que ce qu'on a en France. En France, on joue avec la langue, mais c'est un niveau poétique. Ou alors il y a les calembours que je déteste, qu'on voit dans tous les journaux. Mais voilà, c'est... Et donc, quand enfin on s'aperçoit que dans la langue à côté, on peut jouer à tel jeu qu'on ne joue pas dans celle-là, ben on s'en empare.
Mm-hmm. En anglais, il y a ça.
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a quelque chose de saxon hein, entre les deux langues. Donc, il y a aussi ça, j'adore. Les mots composés, dont nous n'avons pas la chance en français. Et il y en a en anglais, il y en a en allemand. Ouais. Enfin,
Je voulais vous poser la question d'une nouvelle forme de Heimatlosigkeit. C'est le sociologue Hartmut Rosa qui en parle, une forme de Heimatlosigkeit moderne qui découle selon lui de la mondialisation, qui donne l'illusion aux personnes d'être partout chez elles, puisqu'elles peuvent accéder facilement au monde entier. Alors qu'en fait, elles ne sont finalement nulle part chez elles. C'est, selon lui, une errance identitaire qui pourrait aboutir à une paralysie intérieure, parce que plus aucun lieu ne signifierait quelque chose, en fait, pour la personne qui serait tout le temps en transit. Et je voulais savoir si vous qui vous partagez entre plusieurs cultures, est-ce que vous ressentez ce sentiment d'errance et de déracinement ?
D'errance, moi c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et de déracinement, non, mais de non-enracinement. Mais cela dit, une fois qu'on arrive à... Enfin, pour moi, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'au début, c'était subi, et puis c'était évidemment pas analysé. Mais ensuite, quand on arrive à l'identifier, je trouve que c'est plutôt une richesse que de perdre.
Bon, personnellement, j'ai été débarrassée, si je peux dire, de la question de l'identité nationale dès ma toute petite enfance. C'est-à-dire que pour moi, fini justement l'identification à une nationalité et tout ce qui est de l'ordre des nationalismes, ça c'est radical. Je ne me sens absolument pas nomade parce que de toute façon je pense que les appartenances elles sont non pas justement territoriales, mais elles appartiennent à la mémoire, au temps, et ça passe par la langue. C'est-à-dire que quand on est dans une langue, quand on ne la rejette pas, quand on ne la piétine pas, comme c'est le cas de beaucoup de gens, hein, à ce moment-là, on remonte, et on remonte dans les siècles, comme nous le faisons par exemple avec la littérature française, qui elle-même était ouverte sur les autres langues. Hein. Ce n'est pas une langue fermée, pas du tout. Et donc, on sent qu'on appartient, qu'on est né il y a 1000 ans, qu'on a commencé à avoir le cœur qui bat avec Tristan et Iseult en vieux français. Enfin, c'est comme ça. Mm-hmm. Et là, on n'a absolument pas le sentiment d'une errance mm-hmm. ou d'une déshérence.
Mm-hmm. C'est vrai, la littérature, c'est le seul pays. Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est plutôt le sentiment d'une richesse
oui, cosmopolite. Mm-hmm. C'est, alors, on peut dire ça si on se sent cosmopolite, mais sinon, c'est... Je pense que c'est vraiment une sorte de généalogie. Il y a de la racine, mais elle est dans la mémoire. Et cette généalogie, je pense qu'on se la construit, elle est solide. Hein. Par exemple, une chose que moi j'ai toujours aimée, c'est de sentir, de savoir que Shakespeare a lu Montaigne, que Montaigne a été traduit tout de suite. Bon, pour moi, ça construit quelque chose. Ce que ça construit, c'est une Europe qui, à une époque que les gens ne peuvent pas imaginer, mais au XVIe siècle, il y avait l'Europe. Et quand je dis le XVIe, je devrais dire bien avant, puisque au temps de la guerre de Cent Ans, on était européens. Alors on était peut-être en guerre, mais on avait un sort commun. Eh bien ça, on l'a.
J'en arrive à ma dernière question, qui porte sur l'Allemagne actuelle. Et j'aurais aimé savoir ce qu'elle vous inspire, justement, cette Allemagne actuelle. J'ai pensé aussi à l'expression « cette Allemagne de l'après-mur ». Quel regard portez-vous sur cette Allemagne?
C'est difficile de globaliser comme ça un regard sur l'Allemagne. Mm-hmm. Il y a tellement de diversité. Mais je ne sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est parce que c'est actuel. C'est l'attitude de l'Allemagne et d'Angela Merkel vis-à-vis de ceux qu'on appelle les migrants et de cet accueil formidable, même si maintenant il y a beaucoup de réserves, il y a des mouvements contre, mais moi j'ai envie de retenir le côté accueil et par rapport à la France, c'est quand même un exemple. Je trouve qu'on parle en France beaucoup trop de l'Allemagne pour comparer sans cesse ce qui se passe ici, notamment et ce qui se passe là-bas, sur le plan économique, sur le plan que dans ces comparaisons, il y a toujours un peu de malveillance, d'envie, enfin, de sentiments pas clairs. Et qu'on ferait mieux, si on doit s'inspirer de l'Allemagne, de s'inspirer de ça, d'un pays qui, lui, a affronté son passé et qu'il a travaillé.
Oui, moi je pense que l'Allemagne actuelle, je la trouve très intéressante. Je la regarde amicalement, même si, bien sûr, je ne m'imagine pas que l'histoire est une histoire de progrès, que donc, à ce moment-là, on atteindrait le paradis, hein. Mais donc elle peut tout à fait chuter, etc. Mais en tout cas, l'effort que l'Allemagne fait, les Allemagnes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'Allemagnes, hein, font depuis la sortie de l'immondice nazi, est tout à fait estimable et recommandable. Ça produit des choses magnifiques. Et... il est vrai, mais j'aime pas beaucoup comparer parce qu'on peut se comparer à l'infini. Hein. Mmh. Ça, c'est, et quand on se compare en général, c'est sur un mode de compétition, de rivalité, etc. Mmh. Et c'est pas tellement non plus juste parce qu'on est surdéterminé par des histoires nationales. Mais il y a quand même un paradoxe. Nous sommes surdéterminés, si on peut dire, par le Vichy et aujourd'hui, hein, simplement, dans cette simple tranche. Hein, ce siècle, disons, et de Gaulle. Alors, la résistance et la collaboration. Bon, une résistance puissante mais faible, et une collaboration généralisée. Bon, ça, c'est ce à quoi la France a affaire. Et puis, il y a un geste réparateur de Gaulle qui est malheureusement un geste de « on referme, on n'en parle plus ». Ce qu'on peut comprendre et qui est une catastrophe. Voilà. Alors, voilà, le malheur allemand a été transformé en une occasion de travailler. Ça, c'est quand même, c'est très bien.
Cet entretien arrive à sa fin et je voulais vous remercier sincèrement de vous être prêté au jeu de l'interview. Merci beaucoup.